ma vie, je ne veux pas l'emprisonner. Je la veux toute, 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 pas juste des petits bouts. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie. Laissez-moi visiter tous les pays. Laissez-moi me promener. Laissez-moi choisir ma sorte de vie. Mais laissez-moi la trouver. Laissez-moi le droit de changer ma vie. Laissez-moi recommencer. Laissez-moi aller au bout de ma folie. Mais laissez-moi m'arrêter. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux toute, toute, pas juste des petits bouts. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux toute, 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 pas juste. Laissez-moi partir si je veux m'en aller. Laissez-moi couper tous les liens. Laissez-moi même vous abandonner. Mais laissez-moi trouver mon chemin. Laissez-moi crier si j'ai envie de crier. Laissez-moi me défouler. Laissez-moi tranquille, laissez-moi, laissez-moi. Mais laissez-moi exister. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie.
C'est Angèle Arsenault, une chanteuse québécoise, pardon, qui nous met tout à fait à la page de la vie d'Emily Kemping. Et tout de suite, un autre extrait du livre Emily Kemping, la femme aux ailes de cire d'Evelyn Hasler, pour nous embarquer dans une autre partie de son existence. Emily frappe à la porte du cabinet de son père. Elle se plante devant lui. Le père, assis, s'étonne de devoir soudain lever les yeux pour rencontrer son visage. Il découvre pour la première fois la blancheur de la peau où ressortent les sourcils épais, les orbites profondes, la ligne inhabituelle de la bouche. Une expression moqueuse se joue aux commissures. La lèvre inférieure, un peu saillante, ne lui plaît pas non plus. Et puis ce corps, devenu soudain long, svelte, flexible. Les seins sous la blouse de coton à carreaux maintenant trop étroite. Il est touché, frappé. Elle est devenue une jeune femme. Comment a-t-il pu ne pas s'en apercevoir ? Grand temps désormais de songer à ses devoirs d'éducation. Il a admiré la volonté, l'intelligence, la vivacité de sa fille. Mais comme le dit le pédagogue Campé, ce sont des qualités qui affectent du signe de la affectées du signe de la féminité, se changent en leur contraire. Chez les femmes, la volonté devient de l'entêtement, l'intelligence de l'impertinence et la vivacité tourne à l'exaltation romanesque. Émilie a terminé les 4 années d'école secondaire. On attendra encore avant de l'envoyer en Suisse romande pour l'obligatoire année d'enseignement ménager. Il y a assez à apprendre pour elle à la maison avec une famille de 9 personnes. Le travail ne manque pas. Elle est là, debout, regarde son père. Remarque de son côté que les années l'ont changé. Son visage s'est élargi, les traits se sont épaissis. Comme son supérieur, premier pasteur de Neumünster, il porte les côtelettes à la mode, des favoris qui encadrent le visage de l'oreille au menton, ne dégageant que le milieu du menton. Eh bien, il saisit son lorgnon, l'invite à parler, indique qu'il a sur la table du travail urgent qu'il veut signer. « Que vais-je devenir ?» demande-t-elle tout à trac. Spiri ôte son lorgnon, examine sa fille à l'œil nu, esquisse un sourire amusé. « Ce que tu vas devenir ? Pourquoi te poses-tu la question ? Tu n'as qu'à regarder ta mère ?» La mère est enceinte et proche du terme. Elle attend encore un enfant, un retardataire. Cette 7e grossesse non désirée l'incommode. Elle vague tant bien que mal aux tâches ménagères, les jambes bandées, demande à Émilie de se baisser à sa place, etc. « Est-ce que tu souhaitais cet enfant, mère ?» La demi-douzaine m'aurait suffi, avoue-t-elle. « Alors pourquoi ?» La mère tente avec prudence d'éclairer Émilie. Un enfant, cela arrive sans prévenir, c'est une force de la nature qu'il faut accepter. Émilie comprend. La femme est à la merci de son époux, prisonnière de son destin de femme. Elle y réfléchit en frottant rageusement les planchers, en lavant la vaisselle, en raccommandant les chaussettes des plus jeunes. Elle sent la peur qui monte en elle. Elle se voit à 15 ans déjà prise au piège. Le père devine cette rébellion intérieure. Un jour d'été, il interrompt son travail, appelle Émilie dans son cabinet, débite des phrases. « Épouse et mère, telle est la vocation intime, primordiale de la femme. Sacrifice et renoncement. Tu dois t'y exercer de bonne heure. » « Mais je veux apprendre, proteste-t-elle. L'école me manque. Je pourrais devenir institutrice, par exemple. » Le père repousse l'article de journal dont il a commencé la lecture, sort ses principes. Il est contre les femmes dans l'enseignement. Leur nature physique, tout orientée vers la conception et l'enfantement, les rend impropres au service public. La psychologie féminine est sujette à des fluctuations et les enfants de l'école publique ont besoin de discipline, de la fermeté d'une main d'homme. Le coussinet du menton avance, remue quand il parle, donne du poids à ses phrases. « Il parle toujours, c'est ce qui est bon pour elle. « Ma mère m'a fait sortir de son ventre, pense Émilie, mais mon père me porte toujours dans sa tête. Il me connaît avant même que je ne me connaisse. Si je me conforme à l'image qu'il a en tête, je mourrai avant d'être née. » Évidemment, lorsqu'on lit ces quelques pages sur la vision qu'a M. Spiri de l'éducation de sa fille, on se dit qu'Émilie va avoir une page très difficile à vivre dans son éducation.
On est un peu glacé, il faut dire ce qui est.
Alors, Évelyne, comment vous avez pu reconstituer cette page de la vie d'Émilie Kemping? Parce que je suppose qu'elle n'a pas écrit des masses sur sa propre éducation et sur ses liens dans sa famille.
J'ai pu trouver une conférence du père. Le père a été curé, mais il était aussi politicien à Zurich. Et il tenait, dans la Société des utilités publiques, une conférence contre les femmes dans l'enseignement. Et justement, il disait que le cycle de la femme... montrer chaque mois que la femme, que la vocation de la femme était d'être épouse et mère et toute autre chose n'est pas bien et que l'instabilité d'humeur de la femme n'est pas à tolérer d'une école publique. Et je crois que c'est très, très intéressant de voir le psychogramme entre le père et sa fille. C'était sa fille préférée. Et lui, au fond, voyait très bien que cette fille avait son intelligence, la ténacité aussi. Et pour lui, c'était très difficile de voir que cet enfant est devenu une jeune femme. Et maintenant, ça change tout. Et je crois pour Émilie, elle s'est soumise au père. Elle était trop jeune pour protester. Et la première fois où elle n'obéit pas, c'est quand elle choisit son époux.
Mais la vision de son père, le poids moral de son père va la poursuivre toute sa vie. On sent que même, tu le disais tout à l'heure, Annette, quand elle va aller aux États-Unis, enfin, elle échappe à la pression de son père. Ça va être un moment où la distance va lui permettre un peu de respirer. Mais malheureusement, comme elle va revenir au bout de 3 ans à Zurich, elle sera reconfrontée éternellement parce qu'entre autres, ce père est influent, effectivement, comme vous disiez, Évelyne. Elle le retrouve à tous les coins de rue.
D'ailleurs, dans la lettre que j'ai lue au début, elle est déjà complètement coupée du monde. Et elle dit, il y a 15 ans que ma famille m'a rejetée. Ça veut dire mon père, surtout. Mm-hmm. Donc, elle vit toujours avec la relation avec le père. Et comme elle doit le vivre que d'une manière négative, évidemment, on imagine qu'elle devait être extrêmement tourmentée et bloquée dans son évolution. Parce qu'au lieu de l'aider, il l'empêchait d'avancer. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu?
Oui, certainement. C'est évident qu'il cesse tout contact avec elle quand elle commence ses études et il ne félicite pas pour au moment où elle a enfin sa professeure là-bas à l'université de Zurich. C'est terrible d'avoir un père dans la même ville qui est un politicien, qui n'aide pas, au contraire, il est dans les gremiums où il est contre les femmes avocats.
Moi, je crois que même si aujourd'hui on peut peut-être les pères, ils disent plus ça comme ce père l'a dit, mais inconsciemment, après autant de siècles où les hommes ont eu ce rôle et les femmes celui que vous avez décrit là, je veux dire être mère, être soumise et tout, moi je crois que c'est quelque part encore présent quand même. Et je peux le dire parce que je l'ai ressenti quand même très fortement. Bon, mon père, il est évidemment pas tout jeune non plus, mais je me rappelle très bien quand j'ai eu mon premier enfant, c'était vraiment une grande fête. Quand j'ai été élue au Grand Conseil, il n'y a personne de ma famille qui m'a félicité. Alors je veux dire, c'est quand même significatif aussi. Hein. Et ça m'a énormément frappée parce que pour moi, en fait, c'était la même chose que de faire un bébé. Hein. Je veux dire, c'était aussi mon bébé à moi, c'était de réussir ailleurs. Juste pour vous dire, moi j'ai l'impression que c'est vraiment inconsciemment, quelque part c'est encore là. Et on le sent très fort maintenant aussi avec l'histoire du chômage où on dit maintenant, ben, les femmes, écoutez, vous pourriez quand même rester à la maison pour que les hommes aient du travail. Attention, hein, je dis femmes, attention.
Oui, je crois que ça c'est une chose où on va se souvenir, même si on a fait quelques progrès quand même malgré tout depuis toutes ces années, on risque d'avoir un retour en arrière important et les femmes doivent être très vigilantes.
Mais je crois que c'est quand même aussi important de préciser qu'on ne peut pas généraliser des attitudes pareilles. Bien sûr, il y a un inconscient collectif qui est lourd à porter. Mais quand on regarde d'ailleurs un petit peu les biographies des femmes, justement fin 19e, début 20e siècle, on voit que certaines qui ont réussi ont justement eu la chance d'avoir un père qui les soutenait. Mmh. Et notamment, les quelques Genevoises qu'on connaît ont été soutenues par leur père, étaient les filles à juste titre préférées du père parce que c'était des brillantes universitaires. Et grâce au soutien de leur père, souvent elles sont restées d'ailleurs célibataires, elles n'ont pas eu d'enfants, elles n'ont pas vécu justement la vie entre guillemets traditionnelle des femmes, mais elles ont pu faire carrière parce qu'elles avaient le soutien de leur père. Et je crois que c'est aussi important d'essayer de se dire qu'il y a plusieurs chemins possibles.
Tout à fait. Mais je crois que peut-être ce qu'il y a de particulier à celle de la vie d'Emily Kemping, c'est qu'elle était à une époque où elle était en train sans arrêt de faire des démarches pour arriver à vivre ce qu'elle avait envie de vivre et qu'effectivement, d'avoir la malchance pour elle, d'avoir un père c'est qui était impliqué dans tellement de choses, la freinait à tout instant. Absolument. Parce que s'il avait, s'était contenté de condamner ses choix en tant que père, c'est bon, à plein de reprises, vous le montrez à Evelyne dans votre livre, elle est tiraillée parce qu'elle aime ce père puis elle n'a pas envie d'être coupée de lui. Donc, il y a la partie affective qui est importante. Mais en plus de cela, il est un obstacle réel à toutes ses démarches. Quand elle va faire des démarches officielles pour accéder à l'université comme enseignante, il fera pression pour empêcher. Quand elle fera la démarche pour qu'on reconnaisse le droit aux femmes de pratiquer le métier d'avocate et obtenir qu'il y ait une formation pour le métier d'avocat et que pas n'importe qui puisse devenir avocat, puisque c'était le cas à Zurich à cette époque, eh bien, elle aura encore son père en face d'elle qui discute ce type d'initiative parlementaire. Donc, c'est vrai qu'elle n'a vraiment pas de chance parce qu'elle le retrouve à tous les contours.
Absolument.
Pas seulement au niveau affectif. Je pense que ce qui serait intéressant tout de suite, c'est qu'on entre dans le vif du sujet de son travail professionnel, parce que c'est vraiment un objectif important dans son existence. Hein. Elle voulait vraiment pratiquer son métier, pas simplement pour faire des études comme ça, pour s'instruire, comme peut-être des tas de jeunes filles de la haute société à cette époque-là, mais elle avait vraiment envie de pratiquer son métier et de se mettre au service d'un certain nombre de femmes qui, à son avis, avaient vraiment besoin d'aide juridique. Alors, peut-être qu'on peut résumer. On avait prévu de lire encore un extrait, mais le temps court.
Oui.
Et je crois que ce serait bien qu'on échange simplement peut-être sans avoir vraiment lu. Mais le passage que j'avais envie de vous lire évoque le moment où elle se présente au tribunal à la place de son mari parce qu'il a porté plainte contre quelqu'un et on lui refuse, bien évidemment, de se présenter à la place de son mari. Et elle a en face d'elle un avocat qui était, comme justement ce que je viens de dire, qui était un ancien cabaretier et qui n'avait strictement aucune autre formation comme avocat. Mais le juge lui fait remarquer que malgré ses études, malgré son doctorat qu'elle va obtenir d'ici peu, eh bien, elle oublie un détail important, c'est qu'elle est une femme et qu'elle n'aura jamais le droit de pratiquer son métier. Et elle constate que le fameux article 4 que nous autres féministes contemporaines avons aussi mis sous la loupe pendant un bon moment, eh bien, on n'a peut-être pas forcément eu tort parce qu'elle, elle se le prend dans la figure. Absolument. Dans toute sa splendeur, puisque le juge en question, au moment où elle cite l'article 4 et qu'elle dit « Mais tous les Suisses sont égaux devant la loi, il n'existe en Suisse ni rapport de suggestion, ni privilège de lieu de naissance de famille ou de personne », eh bien, le juge lui répond « vous observez qu'il n'est rien dit des femmes suisses, n'est-ce pas? Donc, il suffit d'être homme. On a besoin, en Suisse, à cette époque-là, de n'être qu'un homme. C'est ce que donc constatera Émilie Kempien à ce moment-là. Et donc, impossible de pratiquer son métier de juriste. Alors, je crois que ce serait important de faire des comparaisons entre la situation de l'époque et la situation d'aujourd'hui, Maria. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait bondir? Qu'en est-il de la situation d'aujourd'hui?
Je crois aujourd'hui, on ne peut plus dire que les femmes sont... Si vous voulez, au niveau professionnel, je ne pense pas qu'une femme est désavantagée par rapport, par exemple, à la pratique du barreau ou quelque chose de ce genre. On peut le faire, je pense. Bon, moi, je n'ai pas encore la pratique, je suis encore aux études, donc je ne peux pas vous parler de mon expérience personnelle. Ce que je vois seulement, c'est que, par exemple, à l'université, à la faculté de droit, il y a très, très peu de femmes professeurs. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est parce que les femmes sont moins compétentes? Est-ce que c'est parce que les femmes n'ont pas envie de faire une telle carrière, parce que ça implique de tels sacrifices qu'elles ne sont pas prêtes à les faire? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'aménage pas ce métier pour les femmes qui désirent quand même peut-être aussi avoir une vie de famille, avoir des enfants, alors qu'une carrière académique implique souvent beaucoup de publications et puis du non-stop jusqu'à un certain âge? Alors, j'en sais rien, mais je crois... Là, ça a quand même changé, je veux dire. Et puis, on a aussi l'article 4, alinéa 2, maintenant, dans notre Constitution.
Alors, voilà.
Ça, c'est quand même un petit peu quelque chose.
C'est vrai qu'à l'époque où on s'était battu pour faire inscrire que tous les Suisses et les Suisses sont égaux devant la loi, en tout cas, il semblait à certaines femmes du mouvement féministe que cette démarche strictement parlementaire paraissait inintéressante. Mais quand on voit qu'on a utilisé cet article contre, par exemple, la situation d'Emily Kempien, on se dit que c'était quand même nécessaire de faire cela.
Mais Maria, actuellement, en faculté de droit, il y a, je crois, autant de filles que de garçons qui étudient, sinon plus de jeunes filles.
Je crois on est plus de femmes que d'hommes.
Et ce qui est intéressant, la proportion est assez importante.
Ce qui est intéressant à voir aussi, j'ai l'impression que les femmes, en principe les filles, elles participent beaucoup, elles s'intéressent vraiment bien. On voit dans les discussions aussi souvent, les filles sont très actives, en tout cas une partie, comme toujours. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est dans les postes un peu plus loin, où il y a vraiment un manque d'identification. Moi, je vous dis, maintenant, il y a une professeure qui a été nommée. Et j'en ai vu des chargés d'enseignement, des assistantes, oui. Mais alors, professeurs, c'est des messieurs respectables, mais il n'y a pas tellement de femmes.
Mais on est probablement à une époque de mutation dans ce fait-là, parce qu'il n'y a pas si longtemps que les filles sont majoritaires à l'université. C'est quand même quelque chose de tout à fait récent. Et on peut rappeler que Émilie Kempien a été donc la pionnière en Europe. C'était la première femme docteur en droit. Donc elle a, en 1888, hein,
c'est 87.
Ouais. Et en fait, elle a été suivie de près par une Française, ensuite par une femme belge également. Mais elles sont restées vraiment extrêmement minoritaires pendant des années. Hein. On peut rappeler d'ailleurs qu'à Genève, jusqu'en 1930, il n'y avait que 5 femmes diplômées en droit de l'Université de Genève. Donc c'est aussi quand même, à ce niveau-là, quelque chose d'assez récent que les femmes s'impliquent dans la pratique du barreau. Ça fait 50 ans, quoi, en gros. Pas beaucoup plus.
Mais il y a quelque chose de paradoxal, Evelyne Hasler, c'est qu'à ce moment-là, l'Université de Zurich, semble-t-il, était une des plus généreuses, entre guillemets, dans le sens où elle acceptait qu'il y ait des femmes à l'université, ce qui n'était non plus pas le cas dans beaucoup d'endroits. Il y avait beaucoup d'étrangères qui venaient à Zurich pour étudier.
Oui. Je crois, à côté de Paris, Zurich, elle était la première université déjà dans les années 60 du siècle passé qui ouvrait ses portes aux femmes. D'une part, elle a été généreuse et d'autre part, elle ne l'était pas parce qu'au moment où les femmes passaient les examens, elles n'avaient pas l'occasion d'avoir une poste ou bien de devenir professeure à l'université. Il y a beaucoup de discussions avec Émilie Kempien quand elle revient de New York et finalement, on s'est décidé de la prendre, mais exceptionnellement était marquée sur le permis.
Oui. Et sans qu'elle soit payée, non, si je me rappelle, elle n'avait pas de salaire. Elle pouvait le faire gratuit.
Oui, elle a été payée selon le nombre des étudiants. Oh. Et en même temps, la Neue Zürcher Zeitung écrivait « C'est humiliant pour les jeunes gens d'être au pied d'une femme
». Voilà, oui, c'est pauvre. Oui, parce qu'en plus, à un moment donné, elle enseignait que pour... elle a d'abord que pour des femmes, non, elle a réussi à ouvrir un cours pour des femmes, puis finalement, lui a confié un cours, il y avait aussi des garçons. Et au scandale, ces messieurs devaient l'écouter.
Oui, ils n'ont pas tellement apprécié. Hein,
les pauvres. Émilie, plus tard, en rentrant des États-Unis, va ouvrir son cabinet avec Walter, son mari, qui entre-temps a lui aussi fait des études de droit. Et elle constate que beaucoup de femmes viennent la voir, et souvent des femmes des classes supérieures, et qui viennent un petit peu lui faire part du désespoir qu'elles ont accumulé. Je cite un petit extrait. Elle parle de leur colère, de leur honte avalée pendant des années. Une femme, par exemple, se plaignait que son mari eût dissipé toute sa dot. Une autre, que son époux lui eut enlevé ses enfants pour l'obliger à divorcer. Une femme fière, appartenant au grand monde, montra à son cou des marques de doigts, des ecchymoses sur sa poitrine. La table de travail d'Émilie gémissait sous le poids de ses plaintes, et la juriste enrageait en pensant aux lois insuffisantes, injustes, qui ne donnaient aucune prise sur les coupables. Souvent aussi, elle pensait aux femmes modestes qui n'avaient ni l'assurance ni l'argent nécessaire pour entrer dans son cabinet de la Bahnhofstrasse. Et elle avait la ferme intention d'ouvrir, comme à New York, un bureau d'assistance juridique pour les femmes où les consultations seraient gratuites. Et pourtant, lorsqu'il fallait amener ces cas devant la justice, eh bien, c'était Walter qui devait aller devant les tribunaux, puisqu'elle n'avait pas le droit d'intervenir comme avocate. Et les clientes étaient souvent déçues que ce fût lui qui les défendit, et non Émilie. Maria, est-ce qu'aujourd'hui vous avez la sensation qu'il faut absolument maintenir des bureaux juridiques à l'intention des femmes, comme Émilie avait l'intention d'en recréer un à Zurich après l'avoir créé à New York?
Moi, je crois que vraiment, c'est encore strictement nécessaire pour une femme qui a eu des problèmes au niveau de la violence. Par exemple, on a vu avec le harcèlement sexuel aussi, elles n'ont pas envie de parler à un homme, forcément. Puis là, il faut vraiment des femmes qui peuvent répondre au niveau juridique et puis en même temps qui sont du même sexe. Moi, je crois que c'est extrêmement important que cela existe encore, comme il est important aussi qu'il y ait des femmes qui fassent des lois. Parce que là aussi, on voit très bien maintenant, il y a la discussion sur la loi, sur l'égalité au niveau fédéral. Je peux vous dire, ça me fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Vraiment, là, il faut que des femmes qui défendent les causes des femmes se mobilisent. Et pour ça, il faut peut-être justement que les femmes soient aussi formées pour le faire. Donc, oui, c'est tout un cercle important.
Oui. Maria Roth, vous qui êtes à la fois dans le lieu où on fait les lois et dans le lieu où on défend les lois, où vous allez bientôt être dans le lieu où on défend les lois, est-ce que les femmes aujourd'hui peuvent se faire mieux entendre dans ces deux cadres-là, que certainement ça ne devait pas être le cas autrefois, quand on sait que ce n'était pas le cas autrefois?
Ça, c'est assez délicat. Moi, je dirais ça dépend où vous êtes. Moi, j'ai l'impression, dans le monde politique, c'est encore assez difficile. Vous avez très bien vu lors des dernières élections que pour les femmes, quand même, c'est encore plus difficile que pour les hommes si on veut aller à des postes à responsabilité, à des postes de pouvoir. Par contre, si on est dedans, par exemple, au Parlement, moi, peut-être au début, j'ai dû montrer que je n'étais pas si incompétente que ça, mais bon, je n'avais aussi pas de titre académique, hein, c'est peut-être aussi ça.
Il y a combien de députés qui n'ont pas de titre académique?
Est-ce qu'il faut être seulement universitaire pour pouvoir être députée?
Non, pas forcément, mais c'est vrai que c'est vraiment... Bon, moi, j'avais même pas. Enfin, j'étais à la maison à l'époque, donc j'avais dit que je suis infirmière de formation. Je l'ai dit, mais bon, j'étais à la maison depuis 5 ans, donc pas de spécialiste ni rien. Donc j'ai dû prouver que j'étais quand même pas si bête que ça. J'avais des compétences, ça c'est vrai. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on m'écoute autant que les hommes, mais c'est quand même. Oui, il y a quand même encore quelques... Ça dépend toujours dans quel milieu, avec qui. Ce qu'il y a aussi maintenant, c'est que comme moi, je suis en plus dans un parti où on est majoritaire, les femmes, on entend aussi des reproches. On prend la place des hommes maintenant. On est les méchantes sorcières qui prennent les places des hommes.
Nous sommes dans quel parti avec vous, Maria? Parti socialiste, c'est ça? Il ne faut pas cacher les choses aux gens. Bon, Écoutez, moi je crois, oui, c'est, si je vous posais la question,
j'ai
c'est vrai.
J'ai pas dit ça à cause du Parti Socialiste, c'est pas le Parti Socialiste qui le dit, mais c'est des politiciens ou la presse, tout le monde le dit. C'est pas seulement les gens du parti qui le disent, ça je dirais pas. Alors, non, c'est quand même le parti qui permet le mieux aux femmes à accéder à des postes.
Et qui défend les bonnes causes.
Ah exactement. Oui, alors ça non.
Non mais je crois qu'il y a, oui, ce qu'il y a surtout de frappant, c'est qu'effectivement, on n'admet pas encore aujourd'hui que les personnes les mieux placées pour parler de quelque chose, c'est celles qui sont concernées. C'est surtout ça qui semble important dans l'histoire de la défense des droits des femmes. Parce que j'imagine qu'on l'a bien vu lors de la dernière session du Conseil national, quand on parle de voter de par exemple des cotisations d'assurance maladie, qu'on continue à dire qu'il faut que les femmes payent plus que les hommes. Effectivement, les femmes sortent de là effondrées parce qu'on ne les a pas écoutées de nouveau. Et ça, je crois que c'est vrai que ça ne doit pas être facile aujourd'hui quand on est député de vivre cet instant-là. Et je ne sais pas si en tant qu'avocate, peut-être, bon, vous n'avez pas encore l'expérience, mais vous connaissez certainement peut-être l'expérience d'autres femmes. Si une femme aujourd'hui plaide à la cour, est-ce qu'on lui accorde le même sérieux que si c'est un homme qui plaide?
Mais regardez les journaux, de qui on parle? Est-ce qu'on a à Genève? Est-ce qu'il y a des noms de femmes avocates qui sortent comme les noms d'hommes avocats sortent? Alors moi, je ne suis pas sûre que les femmes soient moins bonnes. Alors je me pose des questions. Je les connais pas, les hommes, les stars du barreau, mais on en a à Genève. Je ne vais pas les nommer pour ne pas faire de jaloux, mais on ne lit jamais une femme, elle a brillamment défendu telle et telle. C'est toujours des hommes, alors moi, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire plus parce que c'est vrai, je ne suis pas encore dans ce monde. J'ai quelques copines et souvent les copines que moi j'ai, ils ne s'intéressent peut-être pas tellement à des choses très, très publicitaires.
Voilà, à défendre certaines
choses. À défendre, par exemple, c'est les grands procès pénaux, je veux dire, qui sont vraiment là. Puis là, c'est toujours des hommes, ça c'est vrai. Mais bon, les causes, je ne les connais pas encore. Je vous dirai dans quelques années.
On espère.
Evelyne Hasler, vous avez la sensation que la situation est la même en Suisse allemande, à Saint-Gall, d'où vous êtes originaire, au Tessin où vous habitez maintenant, Zurich, c'est pareil?
Je pense intellectuellement, on progresse, mais dans les émotions, ça reste presque la même chose. Et surtout, je pense, les relations entre hommes et femmes, les couples, les mariés, c'est très, très difficile de trouver de nouvelles formules.
Et c'est dont nous allons parler dans quelques instants, après une petite pause musicale, toujours en compagnie d'une Québécoise, et cette fois-ci c'est Pauline Julien, et qui nous fait remarquer que nous avons des ailes, alors utilisons-les, et oublions que parfois elles peuvent être en cire.
Ma tante Marie-Blanche, qui était pas mal tannée, de se garder trop blanche pour mon nom grené. Ma tante Marie-Blanche, un jour s'est décidé à sauter de sa branche avant d'être décédé. À sauter de sa branche avant d'être décédé. Ma tante Marie-Blanche a dit à son mari: René, tous les dimanches, va au cinéma de Paris. Ma tante Marie-Blanche, sous prétexte d'aller au vu, a le cœur qui flanche dans des bras imprévus. N'avait jamais eu de fun parce qu'elle était trop blanche à cette heure à Noatone. Ma tante Marie-Blanche, qui avait peur des hommes, là à tous les dimanches accroche une ou deux pommes. Là à tous les dimanches accroche une ou deux pommes. Ma tante Marie-Blanche est pas ben regardant, qui ait la barre noire ou blanche, alors la flamme ardente. Ma tante Marie-Blanche est ben capable d'en prendre. Il y en a un qui flanche à dire qu'il était